à la science.
Eh bien, c'est sans doute l'un des défis les plus originaux de ce début de siècle. L'homme contre la machine, le joueur, et sa stratégie contre le logiciel et sa formidable capacité de calcul. Enfin, je devrais dire plutôt l'ordinateur et sa formidable capacité de calcul. Et c'est toujours en compagnie d'Hervé Tis, physico-chimiste, conseiller scientifique de Pour la Science, et de Nicolas Guibert, champion de France 99 du jeu de dames et puis auteur de logiciels, logiciels buggy. Vous êtes aussi informaticien, ingénieur informatique, plus exactement.
Oui, société de conseil dans le domaine de l'informatique qui s'appelle DataCEP.
Voilà, bah, écoutez, tout est dit, donc on va parler de cette intelligence artificielle, ou en tout cas de ces jeux de stratégie l'homme contre la machine.
Ouais, c'est, oui, Hervé. Buggy, ça fait penser à bug.
Oui, oui,
logiciel, c'est des bugs, il ne marche pas.
Je me suis fixé un challenge difficile en l'appelant buggy volontairement, parce que c'est un domaine où on a tendance à faire beaucoup de bugs, et je l'ai appelé buggy.
Pour le clin d'œil.
Pour le clin d'œil. Mais c'est un challenge. Parce
alors Nicolas Guibert, qui aujourd'hui est champion du monde, l'homme ou la machine dans les jeux?
Alors ça dépend des jeux. Il n'y a pas une réponse
unique.
Il n'y a pas une réponse unique. Il y a des jeux où, pour lesquels les machines se sont montrées supérieures depuis quelques années. Mm-hmm. On pense le jeu le plus élémentaire, le Puissance 4 que tout le monde connaît. Bon, c'est pas un jeu de stratégie qui a été joué en compétition. C'est un jeu assez simple. Ça a été résolu dans la fin des années 80. Le jeu d'Othello qu'on connaît peut-être moins en France, qui est un jeu où on essaye d'avoir à la fin du jeu le plus de pièces que son adversaire par retournement successif.
Et on retourne les pièces,
on retourne les pièces en encerclant les pièces de l'adversaire.
Ah, comme au Go alors, un peu.
C'est différent du Go. En fait, il faut qu'une pièce blanche prenne en tenaille des pièces noires. Voilà, et à partir du moment où on prend en tenaille les pièces noires deviennent des pièces blanches. Voilà. Donc ce jeu est un jeu assez petit, on va dire, dans l'espace et dans le temps. Mm-hmm. Et donc, il est assez facile à résoudre pour le logiciel.
L'ordinateur bat l'homme aux échecs?
Aux échecs, en tout cas, l'ordinateur a battu le Kasparov en 97. Mais c'était un match. Et
ça ne s'est pas renouvelé.
Il y aura probablement un autre match qui aura lieu prochainement.
Aux dames, vous avez vous-même organisé, en tant qu'ancien champion de France des dames, une compétition entre l'homme et la machine. Qui a gagné?
C'est le joueur de haut niveau, c'était le 11e joueur mondial,
ouais.
Le Sénégalais Diagassam, qui est grand maître international, donc 11e joueur mondial, et qui a battu ma machine, mon logiciel, de peu, mais bon, voilà, il a remporté le match, hein, sur le score de 4-2, 11-9, c'est un match en 2-7, et au meilleur des 3-7, et il a remporté les deux premiers 7. Mmh.
Vous savez que ça a une image de simplicité, j'allais dire enfantine, le jeu de dames.
Ça, je le sais, oui. Ça,
ça veut dire quoi,
malheureusement.
Ça veut dire que...
Pourquoi malheureusement, au contraire, ça peut attirer des joueurs, si on dit oh, c'est simple, je joue, non?
Non.
Qu'est-ce qui est complexe dans le jeu de dames pour l'homme et pour la machine?
Qu'est-ce qui est complexe dans le jeu d'échecs? Je vais vous répondre. C'est deux jeux à mettre dans le même sac, exactement.
Malheureusement,
le jeu de dames, il est vendu avec le jeu de loi, qui est un jeu où il y a 100% de hasard, et le jeu des petits chevaux, qui a 98% de hasard. Donc, on l'associe dans l'imagerie populaire. Le jeu de dames, c'est un jeu simple, c'est un jeu enfantin, c'est un jeu qu'on joue avec son grand-père, mais c'est pas plus. Alors qu'en fait, le jeu de dames, il y a 20 pièces à sa disposition. Au premier coup, on a 9 possibilités qui ne sont pas identiques. L'adversaire a 9 réponses possibles, elles ne sont pas identiques. On peut aussi bien occuper des bonnes cases que des mauvaises cases. On peut faire des combinaisons qui consistent à donner 18 pions pour en prendre 19, hein, j'exagère, mais 5 pions pour en prendre 6 ou 8 pour en prendre 9. C'est des combinaisons qui sont très spectaculaires, qui sont pas du tout évidentes, qui y a des mécanismes à apprendre. Ça, c'est une partie du jeu, c'est la tactique, le court terme, le calcul, les combinaisons.
Ouais, c'est ça. Et en plus, je suis toujours en train de me demander stratégie et tactique. Alors, tactique égale court terme, stratégie égale long terme, c'est ça l'idée?
C'est ça, le tactique, c'est court terme et ponctuel et local. Mm-hmm. Et la stratégie, c'est global et long terme.
Alors, vous qui avez été champion de France de cette discipline, de ce sport, parce qu'en fait, vous parlez de sport.
Je parle de sport volontiers.
Pourquoi le sport?
Volontiers,
oui. Oui, pourquoi?
Alors pourquoi? C'est une question de définition, hein, de toute façon. Et souvent, ça fait sourire quand on dit que le jeu de dames ou le jeu d'échecs est un sport. Hein, je le comprends tout à fait. Mais par exemple, il y a le GAISF, qui est le groupement international des fédérations mondiales de sport. Donc, par exemple, qui regroupe la Fédération internationale de football, la Fédération internationale de rugby, etc. Ben, il y a quelques années, elle a intégré la Fédération internationale de bridge, d'échecs et de dames, parce qu'elle a changé sa définition du sport. Et, Maintenant, le sport englobe la tête, quoi.
Bon, alors, si vous êtes un sportif, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous qui êtes champion de France, donc, c'est-à-dire quelqu'un de très haut dans son sport, a envie de concevoir une machine? Est-ce que ça veut dire qu'il se raisonne comme un certain nombre de scientifiques autrefois, comme homme égale machine, et machine peut égaler l'homme? Ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que c'est dans cette bagarre, dans cette logique-là que vous vous inscrivez, est-ce que vous pensez que l'homme peut un jour égaler l'esprit de la machine? La machine peut égaler l'esprit de l'homme.
La machine peut arriver en fait à donner l'illusion de l'intelligence, mais jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire pour encore assez longtemps, elle ne sera pas intelligente de la même façon. Alors, notamment au niveau des jeux, on utilise des méthodes complètement différentes de ce que font les hommes pour arriver au même but. Pour jouer aux échecs ou aux dames, on utilise essentiellement la force brute, la puissance de calcul du logiciel. Alors que l'homme, il calcule très peu de positions en une seconde. Kasparov, il disait qu'il calculait 2 coups par seconde, alors que Deep Blue, contre qui il a joué, il calculait 200 millions de positions par seconde.
Deep Blue, c'était l'ordinateur d'IBM, c'est ça?
C'était l'ordinateur d'IBM. Et on lui demandait, mais comment vous faites? Ben, moi, les deux positions par seconde que je calcule, ce sont les bonnes. Voilà, l'ordinateur, il calcule tout, oui. Mais Kasparov, il calcule.
Il a un esprit intelligent, un esprit humain, on va dire. Comment faites-vous pour trouver les bonnes?
Comment faites-vous pour trouver les bonnes?
C'est justement très difficile à expliquer comment fonctionne le cerveau humain. C'est justement ce qu'on n'arrive pas encore à faire au niveau intelligent.
Ça, je dis ça. Et vous, comment vous trouvez votre méthode pour gagner, c'est quoi?
Mais on calcule, disons, on utilise un petit peu comme les logiciels, mais on utilise deux choses. On utilise le calcul des variantes. On calcule, donc on a une position devant nos yeux, et on calcule, voilà, si je joue ça, il va jouer ça, si je joue ça, il va jouer ça.
Vous faites ce genre de réflexion.
Voilà, ça c'est du calcul. Et puis, on utilise en plus la connaissance du jeu pour dire, voilà, cette position, je sais qu'elle est bonne, et cette position, je sais qu'elle est mauvaise. Et par l'expérience...
D'accord. Alors, ça, vous parlez, Nicolas Guibert, en tant qu'homme et en tant que joueur. Maintenant, Nicolas Guibert, en tant que concepteur de logiciels, comment se met-il à la place de la machine pour imiter l'homme? Comment faites-vous? Comment fonctionnent les logiciels? Quelle stratégie appliquez-vous à la machine pour imiter l'homme?
La stratégie, hein.
Stratégie. Enfin, est-ce qu'il y a de la stratégie
donc du long terme?
Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que ce serait assez long.
Non, l'esprit. L'esprit.
Mais les logiciels, enfin la plupart des logiciels de jeux de dames, d'échecs ou ce genre de jeu, sont programmés en utilisant d'abord un algorithme qui permet de se déplacer dans les variantes, donc de faire le calcul sur une certaine profondeur, et à la fin de cette calcul jusqu'à une certaine profondeur, d'évaluer les positions en donnant une note à chaque position.
Donc vous calculez tous les coups possibles
jusqu'à une certaine profondeur,
et vous estimez quels sont ceux.
Et ensuite on arrive à une position et on estime, on dit voilà, là j'ai un pion d'avance, donc je donne une note par exemple plus 1000. Et là, j'ai 2 pions de retard, mais là, je donne moins de 1000.
Alors, ça manque de fantaisie, ça manque de folie, de chaos, de ce qui fait la nature de l'homme, c'est-à-dire de temps en temps.
L'ordinateur, il est insensible, c'est aussi une de ses forces. Dans un match contre un homme, lui, il ne va pas avoir d'état d'homme. L'homme, s'il est dans une position au bord de la défaite, il va paniquer et il ne va pas trouver le bon coup pour se défendre.
Alors, comment devient-il?
S'il y a un bon coup pour se défendre, il va le trouver.
Mais comment la machine devient-elle championne du monde? Est-ce qu'elle observe le comportement de son adversaire? Est-ce qu'elle apprend? Est-ce qu'elle a une expérience qui s'accumule?
Il y a des jeux où des techniques d'apprentissage ont été mises en place. On pense aux réseaux neuronaux, on pense aux algorithmes génétiques, où les programmes auto-apprennent en jouant soit contre eux, soit contre d'autres logiciels, soit en jouant en réseau contre des joueurs sur Internet. Donc il y a des techniques qui ont permis de faire ça au backgammon. Quels autres exemples?
Dans votre logiciel Buggy, le programme apprend lui-même?
Dans mon logiciel, il n'y a quasiment aucun auto-apprentissage. J'ai pas eu le temps parce que c'est un domaine où on a vraiment un milliard de possibilités pour améliorer son programme. On peut optimiser la vitesse, on peut optimiser l'algorithme, on peut optimiser la fonction d'évaluation, on peut améliorer la bibliothèque d'ouverture, on peut améliorer la bibliothèque de fin de partie. Donc on peut ajouter des reconnaissances de forme, on peut ajouter de l'auto-apprentissage, mais en 3 ans et demi, on n'a pas le temps de tout faire.
Oui, donc en fait, j'allais dire, vous divisez en morceaux, puisque vous nous avez expliqué qu'il fallait avoir une expérience, donc on peut avoir une banque d'expérience. Le calcul, vous nous avez expliqué qu'on pouvait faire tous les calculs et leur donner une qualité en fonction de ce que fait l'adversaire. J'ai quand même pas compris très bien ce que vous disiez sur l'adversaire, la qualité de l'adversaire. Est-ce qu'on peut déstabiliser une machine par un jeu qui consiste à, j'allais dire, l'orienter vers quelque chose qui n'est pas le jeu que l'on a prévu.
On ne peut pas désorienter une machine au même sens qu'on désoriente un humain. On peut tirer parti de ses faiblesses. Et on peut en tirer parti d'une manière répétitive si c'est une machine qui n'a pas d'auto-apprentissage. Si on prend un logiciel qui est de niveau moyen, à partir du moment où on sait quelles sont ses faiblesses, ben on est capable de répéter, de mettre en place la stratégie. Nous, hommes, on est capable de répéter la stratégie qui convient pour battre cet adversaire.
Ah oui, il faut pas une machine, si on a trouvé la méthode pour la battre, on la bat tout le temps, quoi.
Donc c'est pour ça que, par exemple, IBM, quand il a sorti Deep Purple Blue et qu'il l'a fait jouer contre Kasparov, il avait à sa disposition aucune partie du logiciel, ou peut-être 6 au maximum. Donc il ne savait pas du tout quelles étaient les forces du logiciel. C'est pas juste du tout, mais bon, ça...
Est-ce que des hommes intervenaient en cours de partie pour aider l'ordinateur, ou en tout cas l'orienter vers tel ou tel...
C'est encore moins juste, ça.
Ah, ça, c'est justement de la triche. Logiquement, le programmeur ou la personne qui fait jouer les coups au logiciel, qui transmet l'information de l'échiquier ou du jeu de dame, qui est le jeu de dame sur lequel on joue les coups, à la machine, cette personne n'a pas le droit, elle a le droit qu'à entrer les coups et à jouer les coups que le logiciel a donné. Elle n'a pas le droit de dire, voilà, joue tout de suite parce que le coup que tu me proposes me plaît, ou ce genre de choses. On n'a pas le droit d'intervenir, sinon c'est de la triche. Justement, Kasparov avait accusé IBM d'avoir triché après le match, et on ne connaît toujours pas la réalité, quoi.
Qu'est-ce qui vous a fasciné, vous, j'allais dire, qui est un joueur de haut niveau de dames, de réaliser, encore une fois, une machine? Vous avez l'exemple, et vous le citez d'ailleurs dans l'article que vous écrivez dans Pour la Science, d'un certain nombre de prédécesseurs qui ont soit fabriqué des automates, soit fabriqué des logiciels qui cachaient parfois un individu. Il y avait un petit peu de escroquerie de temps en temps. Il y avait, je crois, un personnage qui était dissimulé.
Oui, le Turc, oui, c'était une machine qui avait été inventée à la fin du XVIIIe siècle, mais qui était une illusion, quoi. On faisait croire à des personnages célèbres dans les grands salons, qu'on faisait croire que la machine jouait aux échecs, c'était un automate, alors qu'en fait, il y avait une personne de petite taille qui était cachée dans la machine.
Et qui actionnait
les coups, et qui était un bon joueur d'échecs, donc qui avait battu Napoléon, je crois.
Okay. Et alors, je veux dire, l'objectif, c'est quoi ? C'est de se confronter à plus puissant, toujours plus puissant.
Ce qui m'a motivé à créer un logiciel, c'est simplement l'esprit et l'ensemble des problèmes. Bon, j'avais lu deux ou trois articles sur le problème de programmer un logiciel. Bon, c'était intéressant pour moi, joueur de dames, parce que ça, le jeu de dames m'intéresse. C'était intéressant au niveau algorithmique, c'était intéressant au niveau casse-tête, parce qu'il y a sans cesse des tas de problèmes à résoudre. Voilà, le logiciel, il fait ça. Comment on va réussir à lui faire ça ? On a différentes solutions. Il faut trouver une solution pour qu'il arrive à donner l'illusion de l'intelligence. C'est jamais des méthodes...
L'illusion de l'intelligence.
L'illusion de l'intelligence. C'est jamais des méthodes très, très, comment dire, reluisantes. C'est toujours la petite bidouille qui ferme, qui permet d'arriver au résultat qu'on veut. Et derrière, la personne qui voit le logiciel, elle a l'impression que le logiciel est intelligent. Enfin, c'est le test de Turing. Turing était un des pionniers de l'informatique, et lui aussi a commencé a été un des pionniers de la programmation des jeux et de l'intelligence artificielle. Et son test consiste à dire, quand peut-on dire qu'une machine est intelligente ? Le principe, c'est on met la machine dans une pièce fermée, et puis on la fait jouer contre quelqu'un qui est à l'autre bout, dans une autre pièce, qui ne voit pas qu'il joue contre une machine. Et si la personne n'est pas capable de dire qu'elle a joué contre une machine, on peut dire que la machine est intelligente. Mm-hmm. Voilà. C'est pas un test qui est uniquement réservé au jeu, mais c'est le test de Turing. Mm.
Vous vous inspirez de quoi dans la fabrication de vos logiciels, de votre expérience, des progrès de l'informatique, de la puissance des machines, où vous piquez, entre guillemets, à droite, à gauche, des morceaux de fonctions qui ont été utilisés par des informaticiens pour l'utiliser?
Non, il y a un peu de tout. C'est clair que c'est un domaine qui est nouveau.
La bidouille, il prend tout, partout. Hein. Il émet des petits morceaux, hein. c'est ça. Hein.
Oui, voilà.
Vous êtes un ingénieur.
Oui, je suis ingénieur de formation. Mmh. Ingénieur,
mais dans l'esprit. D'ailleurs. Mais...
Les chimiques, vive la chimie, ça mène à tout. Hein.
Non, mais il y a un peu de tout, effectivement. On va lire un article qui a été fait par quelqu'un il y a 40 ans, ou alors il y a 2 ans, ou un truc récent, peu importe. On va en sortir ce qui nous intéresse et l'appliquer à notre programme spécifique. Parce qu'il faut toujours appliquer son domaine pour vraiment en sortir le maximum. On va de temps en temps réinventer la roue parce qu'on n'a pas lu l'article dans lequel c'était déjà mis. Ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable. Je me suis rendu compte que les idées que j'avais déjà... j'étais très fier, en fait, effectivement, elles avaient été déjà inventées. Je suis pas un universitaire de base, j'ai pas une formation de thésard ou ce genre de choses, donc j'ai commencé ça dans mon coin, on va dire. Donc effectivement, j'ai malheureusement réinventé la roue. Enfin, c'est aussi intéressant.
Si elle est plus ronde.
Dans la pratique.
Comment est-ce que vous qualifiez, parce que vous nous avez expliqué que la puissance de l'ordinateur fait que lorsqu'il se trouve devant une situation avec un grand nombre de pièces, il peut calculer très loin, avec une certaine profondeur, grosso modo. Voilà ce qui peut se passer dans 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups.
Oui, 10, 15 coups, oui.
Ça peut aller jusqu'à 10, 15.
10, 15 coups en général.
Pour les lames, c'est 15 coups. Donc c'est des millions d'opérations.
C'est en moyenne, c'est ça. Le logiciel, le programme, il calcule 300 000 positions par seconde. Ça fait beaucoup de positions. Ça fait beaucoup de variantes au final.
Ça, on comprend très bien, mais vous nous dites. On qualifie en quelque sorte tel coup plutôt que tel autre. Qu'est-ce qui fait qu'on qualifie ? C'est-à-dire vous mettez un ordre en quelque sorte dans la machine de priorité qui fait qu'elle va aller plus dans cette direction-là que dans une autre. Quel est cet ordre ? Quel est cet esprit ?
Je vous ai parlé d'une fonction d'évaluation tout à l'heure. Le principe, c'est que c'est une fonction toute bête mathématique qui donne une note, qui à partir d'une position donne une note. Donc le logiciel, il se sert de cette connaissance en fait qui est dans la fonction d'évaluation, qui dit telle position est bonne, telle position est mauvaise, pour essayer toujours de choisir le coup qui mène vers la position la plus avantageuse.
Et une fonction d'évaluation, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça peut être auto-appris, ça peut être généré par un homme. Ça peut être un mélange des deux. C'est une fonction qui dit, cette position elle est bonne, cette position elle est bien.
Je suis la machine, donc je regarde un coup, j'imagine ce que l'adversaire peut faire, je fais un deuxième coup, etc. Et j'arrive à un million de possibilités. Je dis un million, Et puis ces millions de possibilités, je les note toutes les unes après les autres, et je choisis la mieux.
Je choisis la variante qui est la meilleure pour moi, en considérant que l'adversaire ne va pas se tromper.
Celle où j'aurai la meilleure note, quoi.
Celle où j'aurai la meilleure note en considérant que l'adversaire, lui, va faire le même raisonnement et qu'il va toujours choisir la variante qui, lui, est la plus avantageuse.
Et du coup, s'il ne fait pas le bon raisonnement que j'ai prévu.
Alors ça, c'est une des limites de l'algorithme, justement. L'algorithme, il est efficace au point de vue algorithmique, on va dire. Il est efficace parce que, justement, il part du principe que l'adversaire va choisir toujours le meilleur coup, etc. Et que, par construction de l'algorithme, en fait, on peut élaguer des grandes parties de l'arbre, parce qu'on a un arbre de décision devant nous, élaguer des grandes parties de l'arbre. Parce que justement, on part du principe qu'une seule réfutation de l'adversaire suffit à élaguer. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'algorithme par construction, en fait, il est puissant. Comment dire ça ? C'est un peu compliqué. Il est très fort, très, très efficace. En fait, c'est la force motrice. Il est très efficace. Mais en même temps, il a ses limites. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de la possibilité d'erreur de l'adversaire. Ça, il est incapable d'en tenir compte.
Et personne, aucun programmeur n'a fait de
l'algorithme
qui tiendrait compte de l'erreur.
Malheureusement, c'est possible de faire des algorithmes qui tiennent compte de l'erreur en introduisant des notions de probabilité, par exemple. Mais on va perdre énormément en efficacité, ce qui fait qu'en fait, le logiciel va au final moins bien jouer.
Nicolas Guibert, ce qui fait le plaisir du jeu pour les joueurs, c'est le rapport entre les hommes. J'allais dire, c'est la fonction sociale. Comment réagissez-vous à la critique qui consiste à dire vous remplacez l'homme par une machine ? D'une certaine façon, c'est plus très rigolo de jouer parce que ce qui est aussi un plaisir, c'est le rapport humain. C'est de tricher, c'est de jouer sur, j'allais dire, tout ce qui fait la qualité humaine, le rapport. Vous proposez une machine, bon, le jour où toutes les machines seront champions du monde, où sera votre plaisir ?
Jusqu'à preuve du contraire, la question est souvent posée, mais jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'une machine bat le champion du monde, c'est pas la fin du jeu. C'est souvent même le contraire. Ça fait un coup de pub médiatique, on va dire, au jeu, et ça n'enlève pas le plaisir justement que les joueurs ont à jouer entre eux. Effectivement, c'est sûr que jouer contre une machine, ça peut être un peu lassant. Moi-même, je joue relativement peu contre les machines parce que déjà elles sont trop fortes, j'en ai marre de perdre. Donc ça, et je suis pas le seul. C'est-à-dire que n'importe quel débutant qui va acheter un jeu de dames ou un jeu d'échecs dans le commerce, il va tomber sur un logiciel qui sera trop fort et qui va le battre. Ouais. Et au bout de 10 parties, il va dire j'arrête, je le mets au placard.
Merci de votre aveu, Nicolas Guibert. J'en conclus que derrière la machine, il y a toujours et il y aura toujours l'homme, et c'est ça qui fait plaisir. Voilà.
on peut se retrouver. Et ses grandes ambitions et ses petites faiblesses. Merci à vous. On peut retrouver votre article dans le dernier numéro de Pour la Science. Merci à vous, Hervé Tisse. À très bientôt. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine, d'ailleurs, à l'écoute des programmes d'Europe 1.
Alain Serrault, vous retrouvez tous les dimanches entre 12h20 et 13h, rediffusion à partir de 23h.